Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Sabrina Dufour qui vient nous parler du projet Réflexe. Plus tard à l'émission, notre chroniqueuse F. Cardinal nous parlera des ados et de l'estime de soi. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène le sujet « Si on se passait des antidépresseurs ». Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence bien sûr en chanson avec la chanson de Mathieu Lippé et la chanson s'intitule « Les amants de l'aube ». Bienvenue à Folie Douce.
La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce.
J'accueille maintenant mon invité qui est Sabrina Dufour. Bonjour, Mme Dufour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. Vous êtes orthopédagogue en pédopsychiatrie et vous êtes fondatrice aussi du projet Réflexe dont on va parler dans l'entrevue. Donc, comment vous pouvez nous présenter ce projet-là d'abord pour débuter l'entrevue?
Oui, bien en fait, le projet Réflexe se veut vraiment pour les jeunes hommes scolarisés, principalement là, entre 12 et 16 ans. On inclut maintenant une cohorte de filles également. Et c'est un projet là, de rééducation des fonctions exécutives. Donc, tout ce qui est planification, organisation, gestion du temps, mémoire, tout ça. Là, donc, on veut vraiment aller donner un support là, en lien avec les fonctions exécutives pour les jeunes qui ont différents déficits, là, soit le TDAH, soit le syndrome de la Tourette ou autres là, qui ont des impacts.
En règle générale, c'est pas toujours des fonctions ou des fonctions exécutives dont vous parlez. C'est quelque chose qu'on maîtrise chez les jeunes. C'est pas toujours le cas, même si on n'a pas comme tel un diagnostic. C'est bien de s'en intéresser. Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau?
Oui, tout à fait. Bien, en fait, il y a beaucoup de projets là, qui démarrent en ce sens-là, parfois un peu plus au niveau primaire, en prévention, mais principalement à l'âge adulte. Là, ce que nous, on visait, c'était plus à l'âge au niveau secondaire, là, d'aller les supporter dans le développement de ces fonctions exécutives-là. Mais on voit de plus en plus que différentes difficultés, tant au milieu scolaire que dans la vie au quotidien, ça peut être lié là, à ces déficits d'organisation et de planification-là là, qui sont de plus en plus adressés. Là.
Et c'est très important. C'est important pour le reste de la vie aussi. T'sais, en milieu scolaire, c'est une chose, mais on apprend à s'organiser, donc on apprend à faire les choses mieux pour avoir une meilleure vie, être moins dépassé par les événements, j'imagine aussi. Là.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu comme ça qu'on le présentait aux médecins là, qui travaillent avec nous pour les références par rapport à justement à leurs besoins qui vont être en lien avec leur futur, donc au niveau de budgéter, au niveau d'organiser la vie familiale avec un travail, juste d'être organisé dans leur horaire, tout ça, c'est des défis qui vont être beaucoup plus grands pour eux à l'âge adulte. Alors, on essaie d'y aller le plus avec leur réalité au quotidien de leur vie adolescente pour justement anticiper les défis qui vont être beaucoup plus grands là, à l'âge adulte.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu prendre part à ce projet-là et puis, justement, développer le projet?
Oui, nous, on avait déjà beaucoup de références d'adolescents là, qui étaient référés directement à moi en individuel pour des difficultés de cet ordre-là. Par contre, ce que moi, je voyais qui manquait, c'était vraiment un besoin d'échange avec d'autres adolescents qui ont les mêmes réalités, un peu le même parcours aussi depuis le primaire. Là. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'on a voulu aller créer une formule plus de groupe. Et il n'y avait pas aucun service non plus, tant au public qu'au privé, pour aller essayer d'adresser ces fonctions-là, tant en rééducation, là, que ce soit en orthopédagogie ou même en psychologie, il n'y avait aucun service où on pouvait référer les parents pour aller les aider à supporter les jeunes dans le développement de ces fonctions-là. Donc, c'est un peu ça qui nous a amené à aller développer cette formule-là, là, qui est vraiment une formule novatrice. Là, on essaie vraiment d'aller développer quelque chose qu'on n'a plus ou moins de base là actuellement. On y allait vraiment avec notre expérience puis avec toutes les recherches actuellement en cours pour développer un projet qui veut aller dans ce sens-là.
Oui, de façon pratique, ça se présente comment? Comment ça se passe? Est-ce quelque chose qui est fait sur un certain nombre de mois? Puis
oui,
qu'est-ce qui se passe?
En fait, c'est une formule de 12 séances.
Oui.
Et après ça, on a un support là, à un mois d'intervalle et à 3 mois. Et c'est des rencontres d'une heure qui sont faites en clinique externe là, de pédopsychiatrie à Granby. Et ce sont des groupes là, de 3 à 4 adolescents qui sont là à chaque semaine, une fois par semaine avec moi. On fait vraiment de la rééducation en clinique là, avec les outils technologiques. Donc, on mise vraiment là, sur les nouvelles applications ou les nouveaux logiciels qui vont aller aider à organiser, à aller planifier leurs tâches. On a vraiment misé sur cet aspect-là pour aller changer la formule traditionnelle là, de support auprès des adolescents. Donc, c'est vraiment des rencontres d'une heure par semaine, 12 semaines durant. Et après ça, on assure un suivi là, pour voir le maintien des outils.
Parce que c'est pas quelque chose qu'on a prévu nécessairement dans les milieux scolaires, l'organisation. T'sais, on dit toujours, bon, les jeunes doivent être organisés. Déjà, en plus, s'il y a une problématique, là, c'est des jeunes que vous voyez, c'est plus des jeunes qui sont déjà comme diagnostiqués avec une certaine problématique, mais c'est pas quelque chose qu'on montre de façon systématique dans les écoles. Là.
Je sais que dans notre commission scolaire, il y a une volonté de la commission scolaire le Val-des-Serres de notre coin de justement aller former leurs conseillers pédagogiques qui, eux, vont former par la suite le personnel enseignant en ce sens-là de fonction exécutive, ce que c'est, comment on peut le voir là, au quotidien puis qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier niveau de service. C'est sûr que nous, oui, comme vous le nommiez, on a un service plus spécialisé là, avec une clientèle qui a beaucoup plus de problématiques là, et qui a des problématiques qui sont complexes. Par contre, effectivement, les fonctions exécutives, c'est quelque chose qui touche beaucoup de jeunes qui n'ont pas nécessairement de diagnostic. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant à aller échanger avec les gens de la commission scolaire. Là, on a eu une rencontre dernièrement pour justement voir le niveau de connaissance des intervenants en scolaire également. Et c'est ce qu'on souhaite, le partage d'informations en ce sens-là, parce que on doit aller rejoindre le plus grand nombre d'adolescents là, qui ont des besoins dans ces fonctions exécutives-là.
Et suite à ce projet-là, en fait, quand les gens participent, qu'est-ce qu'on vous rapporte? Qu'est-ce que les jeunes vous rapportent? Et qu'est-ce que peut-être la famille, les gens entourant les jeunes, est-ce qu'ils voient une différence? Est-ce que ça se montre comment, finalement, cette différence-là?
Oui, nous, on a deux, en fait, on a deux regards différents. On en a un qui est plus standardisé, là, avec des échelles qui vont aller mesurer les fonctions exécutives au départ et à la fin du groupe. Ce qu'on observe avec ces échelles-là, pour l'instant, avec les cohortes qui ont passé, c'est vraiment une amélioration au niveau de l'initiative et au niveau de l'organisation. Donc, les deux échelles qui ont le plus augmenté, là, suite au groupe, c'est ces deux échelles-là. Par contre, les parents nous ont nommé vraiment une implication plus grande au niveau de leurs tâches, un meilleur contrôle de vraiment comment ils peuvent aller organiser leurs éléments puis aller démarrer une activité là qui était pas là. Et au niveau de la mémoire également, on travaille beaucoup. C'est ce que les parents nous ramènent. Et les jeunes, en fait, vraiment, au niveau des outils techno, c'est quelque chose qui va les chercher davantage. Ça leur a ouvert vraiment les yeux sur différents outils qui sont maintenant disponibles pour vraiment s'organiser et planifier, parce que généralement, pour les jeunes qui viennent nous voir, c'est souvent bon l'agenda, les post-it qui ont été utilisés puis qui, pour eux, n'ont pas fonctionné. Il n'y avait pas nécessairement de plan B là, pour ces outils-là. Donc, c'est ce qu'ils retiennent vraiment, c'est beaucoup les outils technologiques et la facilité d'avoir ces outils-là à portée de main pour compléter les tâches de la même façon que les autres jeunes dans leur groupe qui ont le même potentiel intellectuel, mais qui n'ont peut-être pas ces difficultés-là d'organisation.
À votre connaissance, est-ce qu'il existe ce genre d'approche-là un peu partout ailleurs dans le monde? Est-ce que vous avez déjà recherché pour avoir fondé en fait ce projet-là? Est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose ou c'est plus à force de bâtir que vous avez mis sur place le programme?
Oui, c'est sûr qu'avec l'expérience clinique, on a vraiment été chercher des choses qui pour nous avaient du sens dans l'intervention. Par contre, on a été chercher aussi une collaboration avec un psychologue en particulier dans la région de Trois-Rivières qui, lui, avait fait un groupe plus au niveau des outils technologiques à l'adulte, qui n'avait pas nécessairement une rééducation derrière, là, mais avec plus la vision d'outils technologiques et de support par les outils technologiques au niveau adulte. C'est ce qui nous a donné le goût d'aller chercher un peu cette variable-là, mais au niveau adolescent. Donc, c'est le seul point vraiment commun qu'on peut aller chercher. Mais sinon, dans les programmes que nous, on connaît de rééducation, plus au niveau des fonctions exécutives, c'est plus quelque chose au niveau primaire, au niveau de prévention, mais de là à avoir un programme de rééducation, à notre connaissance, il n'y avait rien de ce genre-là.
C'est un projet, en fait, qui est récent. Comment vous voyez l'avenir du projet Reflex, justement, vous qui l'avez mis sur place? Est-ce que comment vous voyez évoluer? Est-ce que c'est trop tôt pour déjà voir un peu la suite ou...
Bien déjà, en fait, nos cohortes, là, on a toujours une cohorte qui commence à chaque 3 mois. Et au départ, on avait un groupe. Après ça, on avait deux. Et là, on est rendu là à 3 groupes à la fois. Donc, c'est sûr qu'il y a une progression au niveau des inscriptions, au niveau des références par les pédopsychiatres de notre clinique qui est grandissante. Donc, on voit déjà un engouement pour ce projet-là. On entend souvent les parents nous demander un peu comment on a accès à ce type de programme-là. Pour l'instant, c'est limité à notre clientèle, à nous. Mais on c'est sûr qu'on essaie de voir de quelle façon on pourrait... offrir ce service-là dans différents milieux ou dans différentes pédopsychiatries où on est un peu à réfléchir en ce sens-là, mais clairement, il y a de la demande et ce qui a été une belle surprise, c'est également au niveau du groupe de filles là, qu'on avait de la difficulté au départ à avoir des candidats qui pouvaient participer à ce groupe-là. Et là, vraiment, on a une masse qui est assez intéressante pour aller chercher les candidats et candidates pour participer à ce projet-là.
C'est ça, c'est pas que les garçons, parce qu'on pense souvent que les garçons sont les moins facilement adaptables à l'école ou moins faciles de s'organiser, mais les filles aussi peuvent rencontrer des problématiques. Là. C'est...
Tout à fait. En fait, le but au départ d'avoir juste une cohorte de garçons, c'était vraiment d'avoir le maximum de participants. Parce que dans notre clientèle, on a plus de garçons, là, finalement, dans notre bassin. Mais les besoins sont aussi grands là, chez les filles qu'on a rencontrées dans la dernière cohorte que les garçons. C'est vraiment un nuage gris là, dans leur parcours scolaire. Et quand on essaie de les aider ou de les supporter dans ce développement-là, ça fait une grande différence là, dans leur profil d'apprentissage.
De façon très plus générale, en fait, est-ce que vous trouvez que les jeunes, est-ce qu'on s'en occupe assez aujourd'hui? Je trouve ce projet-là tellement intéressant, puis je trouve que ça vient chercher quelque chose qu'on n'a jamais vraiment traité, ou plus ou moins. Là. Est-ce qu'en général, est-ce que les jeunes sont entre bonnes mains?
En fait, c'est sûr que pour moi, la clientèle adolescente, c'est quelque chose qui est un peu plus mis de côté, surtout dans notre côté en pédopsychiatrie. C'est quelque chose de moins séduisant souvent pour les programmes ou pour les donateurs. Puis ça, on avait de la difficulté là, à aller référer justement des programmes pour l'adolescence. On dirait qu'il y avait un manque en ce sens-là. Les parents nous le renomment souvent aussi. On a beaucoup de support au niveau préscolaire. On a du support au niveau primaire, directement dans les écoles. Au secondaire, il en reste du support, mais il est beaucoup plus minime. Et pour les programmes, vraiment, même si les parents veulent se tourner au privé, il n'y avait pas accès à ces services-là. Donc, c'est une clientèle qui semble un peu plus effectivement mis de côté. Moi, ça a été toujours ma clientèle un peu chouchou. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur beaucoup. Et les médecins avec qui je travaille aussi. Donc, c'était quelque chose qu'on voyait très important, justement, pour répondre, oui, aux jeunes, mais aussi aux parents là, qui avaient un besoin de support qui était pas comblé là, par aucun service. Donc, cette clientèle-là de jeunes adolescents avec des difficultés de cet ordre-là était mise plus de côté.
Oui, Mme Dufault, pour les gens qui voudraient en savoir plus, est-ce qu'il y a une façon, comme vous disiez, c'est actuellement plus dans la région de Granby, éventuellement, peut-être qu'il y aura des services qui vont aller ailleurs au Québec ou d'autres régions. Puis actuellement, c'est seulement dans votre région, à Granby, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est le projet là, en fait, qui est démarré là, à l'hôpital de Granby, donc qui actuellement, là, on a fusionné avec Sherbrooke, donc c'est sûr qu'il y a un rayonnement plus au niveau de l'Estrie. Par contre, c'est un projet qui, effectivement, fait beaucoup de... on a beaucoup de retours là, par rapport à ce projet-là, donc je pense qu'il y a des choses qui vont débouler là, prochainement, mais actuellement, c'est vraiment quelque chose qui est offert là, aux services plus en Estrie.
Est-ce qu'il y a une façon d'en savoir plus? Avez-vous un site web? Avez-vous pour s'informer un petit peu plus sur le sujet ou si c'est plus comme ça... C'est assez récent quand même, pour dire.
C'est ça. C'est plus par rapport au service. C'est sûr D'accord. qu'on a une bonne couverture médiatique dans les derniers mois, là, vu la conférence de presse pour le démarrage, tout ça. Donc, mais ce serait plus de communiquer justement avec les gens là, du CIUS de l'Estrie pour voir okay. un peu là, ce qu'il y en est. Puis c'est clair qu'on est ouvert à donner de l'information sur ce que c'est. Justement, ça faisait partie de la base du projet d'offrir la collaboration là, avec les milieux scolaires, avec les gens là, un peu plus pour donner l'information. Mais le service direct aux jeunes est effectivement plus cerné là. Au niveau de l'Estrie.
Donc, ça s'appelle le projet Reflex, REFFLEX, c'est bien ça, 2F?
Oui.
C'est ça. Donc, merci beaucoup, Mme Dufour, Sabrina Dufour, donc fondatrice de ce projet-là. Merci d'avoir été des nôtres à l'émission Folie douce.
Avec plaisir.
Et bonne continuité.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Dire que c'est moi qui traînais, dire que c'est moi qui traînais. Et toi qui crains le pire, et toi qui crains le pire. Je chope tout ce qui passe, je chope tout ce qui passe. Les yeux qui coulent et la toux grasse, les yeux qui coulent et la toux grasse. On s'était croisés sur la grande allée du quartier gay. On s'était croisé sur la grande allée du quartier gay. Dire que c'est toi qui menais, dire que c'est toi qui menais. Et c'est moi qui soupire, et c'est moi qui soupire. J'amasse toutes les traces, j'amasse toutes les traces. Reprends mon souffle dans le crawl et dans la brasse. Dans le crawl et dans la brasse. On s'était croisé sur la grande allée du quartier gay. On s'était croisé sur la grande allée du quartier gay. Anticorps, anti-tout à tes genoux. Jamais d'accord. Toi bien plus fort. J'avais tort. Anticorps, anti-tout à tes genoux. Jamais d'accord. Toi bien plus fort. J'avais tort. Dire aimer. Empire en pleurs. Pilier dérobé. Ou se lamenter. Assourdir. Oh chérie partie. Se lamenter, assouvir. Oh, chérie. t'ai croisé sur la grande allée du Cartuguet. On s'était croisé sur la grande allée du Cartuguet. Sur la grande allée.
Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604.
C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Ghislain Malot.
Bonjour.
Alors, tel qu'annoncé, le sujet, si on se passait des antidépresseurs, c'est un peu un souhait que tu nous fais.
Bien, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Mme Catherine Castro.
Oui, qui... sujet tendancieux un peu.
Il y a
du pour et contre à prendre à l'éducation.
Tu vas voir, oui. Cette femme-là, Catherine Castro, est journaliste et romancière américaine. Et j'ai pris ça sur le site www.marieclaire, un site français. Alors, tu vas voir, Ghislain, elle se pose des questions, des bonnes questions. Elle nous dit « Presque 10% des Françaises prennent des antidépresseurs alors qu'elles n'en ont pas nécessairement besoin. Une banalisation des psychotropes encouragée à la fois par l'industrie pharmaceutique et par la pression sociale. »
Même ici, c'est un peu ça. On dit souvent que c'est très, très prescrit, les antidépresseurs. Oui.
Mais comment dire si quelqu'un en a besoin ou pas?
Oui, mais il y a peut-être l'exagération, il faut voir. Là.
Mais tu vas voir. Elle nous dit « Chez nous, on se refile du Lisanxia comme on se dépanne avec du Doliprane ou un Tampax », elle nous dit. Raconte en rigolant Nathalie, qui a 35 ans, employée dans une agence de communication. Chaque matin, Tessa, 28 ans, part au travail la boule au ventre. Elle nous dit « Un jour, j'étais tellement angoissée qu'une copine m'a filé un Xanax. En 20 minutes, j'étais mieux. » Vanessa, 40 ans, est divorcée. Elle nous dit « Je me sentais débordée, pas calme, avec l'impression que je n'allais pas y arriver. » Son psy lui a prescrit un antidépresseur de la famille du Prozac. Et par la suite, elle nous dit « J'ai moins de haut et de bas. Je compare ça au fait de porter des lunettes. Pourquoi un myope devrait-il continuer à voir flou? Pourquoi souffrir si on peut faire autrement? » Trois femmes, trois exemples qui démontrent que ce qui était exceptionnel hier est devenu banal. Et comme tu disais, Yvan, c'est la même chose ici au Québec.
Oui, c'est souvent amené dans l'actualité, comme quoi il y a trop de prescriptions qui se font.
Oui, c'est aussi dans nos sociétés, c'est pas si facile que ça à vivre non plus.
À cause du stress, tu veux dire, puis la pression.
C'est beaucoup de choses. Je ferai pas la nomenclature de tous les stresseurs ou toutes les raisons que les gens peuvent être déprimés. C'est assez long.
Il y a Monique Debauche, qui est psychiatre à Bruxelles. Elle nous dit « Le médicament psy est devenu un bien de consommation comme un autre. Les patients viennent à mon cabinet en demande, remarque le psychiatre Jean-Yves Perrol. Ils veulent absolument être soulagés, être sous anesthésie, ne plus sentir la douleur, comme s'ils cherchaient à fuir la réalité. » Danilo Martuccelli, qui est sociologue, il nous dit « L'expérience ordinaire de la vie est devenue une série d'épreuves. Choisir son conjoint, choisir l'école des enfants, choisir de divorcer, sommer de faire des choix, nous voilà insécurisés. Jamais certains ou certaines de prendre les bonnes décisions. Pour le chercheur, nous restons démunis face à ce paradoxe. Nos vies personnelles n'ont jamais été aussi passionnantes, mais c'est à nous, individus, de donner un sens à notre existence. » Le sociologue nous dit « Avant, nos trajectoires étaient déterminées par la naissance. Nous ne bénéficions d'aucun support extérieur. Être désormais enjoint d'assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive, tout en aspirant à un mieux-être idéalisé, crée une grande tension.
Oui. » On pourrait aussi, mais on ne peut pas idéaliser le passé. Parce que je me souviens qu'il y a beaucoup d'hommes qui buvaient à la taverne et c'était un médicament pour oublier leurs problèmes, des hommes qui buvaient à la stupeur.
Ben, encore aujourd'hui.
C'est un peu des groupes de. C'était un groupe de des groupes de parole de l'époque. Là, dans
oh, fond, je pense pas qu'il y avait de la parole, droit. Je pense plus qu'il y avait de, le lever du coude et boire
ouais,
la.
Ouais, mais entre hommes, je pense que ça peut.
Oui, mais écoute, ceci, les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. Médicaments, yoga, sport, thérapie alternative, tout est bon pour supporter l'angoisse, la réussite et soulager la tension. Dans cette quête sacrée, les femmes arrivent en tête. D'abord parce qu'elles sont davantage touchées par les troubles dépressifs, en moyenne deux fois plus que les hommes. Au sommet de la crête, les femmes veuves, divorcées et séparées ont, comme les célibataires et celles qui élèvent seules leurs enfants, plus de risques de traverser un épisode dépressif majeur. Autre raison, parce qu'elles sont devenues une cible spécifique du business du mal-être. La docteure Debauche, que j'ai citée tantôt, a ainsi recensé les pubs d'antidépresseurs et d'anxiolytiques visant un public féminin. Qui voit-on? La majorité des femmes en cuisine, faisant le ménage ou de jeunes mères épuisées. Le message? Sans médicaments, la vie de femme serait insurmontable. Ici, au Québec, moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu des pubs à la télé d'antidépresseurs.
Non,
on n'a pas le droit.
Je crois pas qu'on a le droit.
On n'a pas le droit. Les médicaments, c'est interdit oui, de montrer, de dire...
Mais en France, apparemment, qu'on a le droit.
Ou on peut l'illustrer, mais il ne peut pas avoir de commentaires verbales.
Ah, OK. Alors, je poursuis ma lecture de l'article. Une situation bien réelle pour certaines. Madame la psychiatre Debauche nous dit « Ce sont elles qui arrivent chez le médecin en disant « Je n'en peux plus ». Elles ont un foyer à charge, un travail parfois précaire ou peu flexible. Elles tiennent le rôle de soignante auprès des enfants et de plus en plus de leurs parents âgés. Faire face à ces responsabilités sans soutien relationnel est lourd et l'impact psychique terrible. Les généralistes sont à l'écoute du mal-être social bien réel des femmes. Ils tentent d'y remédier vaille que vaille dans l'urgence. Et les trusts pharmaceutiques, c'est-à-dire les grosses compagnies, les y aident en leur apprenant à poser un diagnostic à partir des nouvelles molécules du marché et en adoptant des stratégies marketing très rodées. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre un peu plus tard.
Oui, à l'espresso allongé, merci. Donc, le sujet, si on se passait des antidépresseurs à folie douce d'un et des nôtres.
La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
C'est avec bonheur que je reçois Ève Cardinal. Bonjour Ève.
Allô Yvan.
Bonjour, une habituée, bien sûr, une membre officielle des chroniqueuses de l'émission Folie douce.
Toujours avec grand plaisir.
Toujours, et c'est toujours intéressant, ça t'intéresse beaucoup le domaine de la santé mentale. Cette semaine, la chronique va porter sur ados. Et santé mentale, les adolescents et la santé mentale. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est sûr?
Oui, particulièrement, en fait, Yvan, sur l'adolescence et l'estime de soi. Hein. C'est pas un problème ou un trouble psychologique en soi, mais en fait, au niveau de l'estime de soi, c'est très important au niveau de la santé psychologique et psychique que l'adolescent, en fait, développe une saine estime ou en tout cas, ou l'inverse aussi peut causer certaines problématiques, là, surtout à ces âges-là, mais à toute période de la vie, mais tu sais, au moment, comme tu sais, je pense que t'as des ados en toi, non?
Oui.
Ben, c'est
jeune
ça.
Ado, oui.
Donc, l'estime de soi, on est dans une période où est-ce qu'il y a toutes sortes de changements physiologiques, psychologiques. Donc, ça devient quand même un élément assez important à cette période.
La bonne nouvelle, comparativement à mon époque et peut-être la tienne, pas très loin des époques, là, nos époques, mais il y a peut-être plus de choses qui se disent, il y a peut-être plus de démystifications qui se font auprès des adolescents. Donc, ils sont mieux préparés, à mon avis, pour les enjeux là, de santé donc de santé mentale aussi. Là.
Mais tout à fait, on en parle plus. Même, bon, on parle souvent des médias sociaux. Ça peut justement, par exemple, être un facteur qui peut empirer, mais aussi aider l'estime de soi. Donc, il y a aussi des groupes d'entraide. Les adolescents peuvent peut-être plus communiquer entre eux sur certaines...
Ils sont moins isolés qu'on a pu l'être peut-être à l'époque où il n'y avait pas Internet.
Oui, effectivement. Donc, ça brise une certaine forme d'isolement. Puis, en même temps, il y a des adolescents qui peuvent se retrouver aussi dans d'autres personnes. Mais d'abord, on pourrait définir, on pense qu'on le sait, mais c'est quoi l'estime de soi? Hein?
Ouais.
Mais l'estime de soi, c'est l'idée qu'on se fait de soi-même. C'est une perception qui est souvent fortement influencée par des changements sociaux dans lesquels on vit. Donc, par exemple, ça peut être un nouvel emploi, la perte d'un emploi, une rupture amoureuse. Donc, l'estime de soi se bâtit beaucoup au niveau de l'environnement, mais se bâtit beaucoup aussi en soi-même. Et particulièrement, l'enfant et l'adolescent se voient souvent principalement dans les yeux et le regard que portent sur lui les personnes qu'il juge importantes dans sa vie. Donc là, on parle à ce moment-là des parents, des grands-parents, des amis, de l'entourage. Là, on a parlé des médias sociaux, donc ça peut aussi être un enjeu qui définit l'estime de soi. Donc ça, on part avec la base de définir un peu c'est quoi. Et sachons là, que l'âge adulte, ça ne met pas fin hein, à cette quête d'estime de soi, mais que comme je l'ai dit, l'adolescence est une période charnière là,
ouais.
à ce type de recherche-là.
Oui, parce qu'on n'est pas tout à fait adulte, puis on découvre quand même certains enjeux qu'on ne pouvait pas rencontrer quand on était enfant. Donc ça, c'est quand même une grosse période là, qui, comme tu dis, même le jeune âge des adultes aussi est aussi influencé par ça. Là.
Mais tout à fait. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, Yvan, à la lumière de mes lectures, c'est que, comme on vient de dire que l'adolescent développe souvent son estime personnelle en fonction de son entourage, donc son estime provient souvent de son parent et c'est important comme parent de déterminer le niveau de confiance que l'on a en soi comme parent, d'estime de soi. Alors, et aussi de comprendre quelle estime on a de son ado. Je trouvais ça intéressant quand même. Et souvent, c'est des questions qui se posent. Est-ce que je comprends les divers besoins de mon adolescent dans sa quête d'estime de soi? Est-ce que je l'aide à gérer son stress? Est-ce que je suis à l'écoute de ses sentiments, de ses idées, ses opinions? Est-ce que je l'aide dans ses initiatives? Donc, tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser aussi en tant que parent pour favoriser, en fait... une saine estime de soi chez l'adolescent.
Et c'est donc, pas nécessairement le cas pour tout le monde qu'il va y avoir des problèmes d'estime de soi, parce que l'adolescence, on a toujours l'impression que c'est un gros problème, mais dans le fond, c'est juste une période de notre vie. Donc, ça peut aussi bien se passer. Là. Il s'agit d'être à l'écoute de ses ados. Là.
À l'écoute de soi aussi, en tant que parent, à l'écoute de ses ados. Puis, en fait, il y a certains signes hein, on les connaît peut-être bien, mais plus ou moins des fois qui peuvent, tu sais, comme donner un signe, disons, qu'un adolescent ou une adolescente.
Ouais.
Il y a beaucoup aussi de jeunes filles travaillant au Bail des femmes de Montréal et on a des services jeunesse. On travaille énormément hein, dans les écoles avec des programmes jeunesse pour renforcer l'estime personnelle. Est-ce que tu savais, Yvan, c'est quoi, selon toi, la moyenne d'âge que les jeunes filles se mettent au régime?
Moi, je dirais un chiffre, genre 14 ans, là.
Eh bien, tes proches, là, c'est 12 ans.
Ah, wow,
hein?
Okay.
Il y a un fort pourcentage de jeunes filles qui se mettent au régime et qui ne s'aiment pas physiquement dès le début là, de l'adolescence, sinon c'est pas la préadolescence. Donc,
Il faut dire quoi à une adolescente qui... tu sais, je veux dire, souvent, on va lui dire « Non, t'es correct, puis c'est tout à fait normal là, que t'as un corps comme toi. » Puis tu sais, souvent, les jeunes sont très bien, il n'y a pas d'embonpoint, il n'y a rien. Là. Qu'est-ce qu'on dit à une adolescente, particulièrement une adolescente qui a un problème d'estime de soi puis qui pense qu'il a besoin d'un régime à 12 ans, 14 ans?
Bien, à ce moment-là, écoutez, il faudrait demander ça à mes collègues au service jeunesse, mais de ce que j'ai entendu autour de moi, c'est surtout aussi de renforcer les points forts de la personne et que cette personne-là, cette jeune fille-là, ne se définissent pas uniquement dans la vie par le physique ou le regard que les autres peuvent porter sur elle.
Okay.
Donc, en développant d'autres aspects de sa vie personnelle, de son estime, souvent, ça vient pallier un peu, puis ça vient remettre des perspectives dans le manque d'estime personnelle, parce qu'il y en a qui peuvent avoir un manque d'estime pour plusieurs choses, comme j'ai dit à certaines jeunes filles que c'est physique, mais c'est de balancer un peu les forces force, puis de renforcer positivement, là, si tu veux, la perception que la personne a d'elle-même. Mais ouais. Écoute, ça, on dit ça comme ça, mais ça peut être le travail de plusieurs mois, plusieurs années. Là, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire.
Je sais que moi, si je peux donner un exemple personnel, mm-hmm. ma fille a presque 12 ans, mm-hmm. puis elle sent pas qu'il y a des problèmes de poids, là, mais je lui dis souvent, tu sais, c'est pas juste le physique dans la vie, il faut arrêter de regarder ce que les autres pensent de toi, tu sais. Je pense qu'il faut essayer même de prévenir avant que ça arrive, à mon avis, il faut comme juste dédramatiser ou essayer d'informer la personne, la jeune fille dans le cas-ci. Sur ça, tu sais, de juste la prévenir que la pression est forte autour de soi avec les modèles, puis l'apparence et tout ça. Donc c'est...
Ben déjà, hein, même quand on est adulte, puis qu'on a développé quand même des certains mécanismes de protection, on s'entend que c'est pas toujours facile. On se fait juger sur son travail, on se fait juger sur son apparence, sur son poids, trop maigre, trop gros, trop grand, trop petit. Je veux dire, il y a le jugement aussi de la société est très, très fort par le paraître. Donc, c'est ça, c'est de se développer, en fait, une estime de soi qui est assez forte pour voir ses points forts, ses faiblesses, puis s'accepter finalement ouais. comme on est.
L'estime de soi aussi, je pense qu'il y a un côté aussi... l'estime de soi, il y a le côté aussi, je pense, à part physique, il y a aussi le côté, tu sais, les gens se disent, ben, je suis pas bon, je suis pas bonne, tu sais, au niveau, par exemple, scolaire, ou au niveau dans la vie, tu sais, ben, je suis pas intéressant, les propos que je tiens sont pas intéressants. Il y a ça aussi, c'est pas juste le côté physique.
Ah oh, non, ça va dans comme plusieurs sphères de la vie. Mais il y a des signes aussi, hein, tu sais, des fois, on voit des gens qui sont très rigides dans leurs opinions, ou comme on dit, qui sont en bon français, qui sont fermés d'esprit, mais c'est pas toujours nécessairement seulement que ça, mais souvent les gens qui ont une faible estime de soi vont être très rigides aux idées des autres, vont se fermer ouais. parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc ça, c'est plusieurs signes. Alors souvent, chez un adolescent, par exemple, ce qui peut caractériser une faible estime, c'est une mauvaise opinion de soi, se dévaloriser, un sentiment d'imposture. Hein? Tu sais, quand on parle du syndrome de l'imposteur, les adolescents ont souvent ce sentiment-là de façon plus ou moins fluctuante, si on veut. La peur du changement, la passivité, d'autres signes peuvent être aussi une mauvaise hygiène personnelle. Donc, ouais. tu sais, il y a plusieurs facteurs puis plusieurs situations qui peuvent définir, là, si on veut, une faible estime de soi.
Oui, puis c'est ça, on peut le remarquer comme ça. Il y a beaucoup de... Il nous reste encore quelques minutes, Eve. Mm-hmm. C'est un sujet fort important, bien sûr, et je sens que tu es arrivé aussi avec beaucoup de matériel, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur le sujet?
Bien, en fait, justement, pendant l'adolescence, hein, c'est le développement d'une forte estime est très important. Comme je disais. Alors, comment on peut aider un adolescent? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique, mais il y a certaines façons d'aider son adolescente à okay. améliorer l'estime de soi. Donc, on peut dresser avec lui ou elle, ou l'inviter à dresser une liste de tout ce qui rend cette personne-là heureux puis qui enrichit sa vie de façon positive.
Ouais.
On peut encourager aussi son adolescent à écrire ses sentiments ou les enregistrer ou peu importe, mais pour apprendre à se connaître soi-même. Donc, tu sais, un processus aussi de s'intérioriser puis de valoriser ses points forts
ouais.
et de reconnaître aussi ses points faibles, parce qu'une bonne estime de soi, en fait, c'est aussi de reconnaître ses points faibles. On ne peut pas être bon, être parfait dans tout, être le plus beau, le plus fin, le plus intelligente. Donc, ouais. c'est un peu de savoir jauger ça, là, si on veut.
Et ce que je retiens de mon cours de philo du cégep, c'est connais-toi oui. toi-même.
Exactement.
À tous les âges. Alors, oui, ça, c'est, on peut mettre en pratique chez les ados aussi, à ce moment-là, de bien se connaître. Si on se connaît bien, c'est souvent difficile parce qu'on est jeune, on n'a pas eu encore beaucoup d'expérience. Mais
justement, ça, c'est le défi de l'adolescence. On ne se connaît pas encore tout à fait avec ses limites. Donc, effectivement, ton proverbe, l'adage, est très, très approprié là, dans ce cas-ci. Connais-toi toi-même. Apprends à te connaître.
À te connaître. Ouais. Et peut-être que les autres peuvent t'aider à te connaître aussi, c'est ça.
Tout à fait. Puis pour eux, on est bien vieux, là, mais on a l'expérience dans le corps aussi, oh, on
oui.
s'entend.
Exactement.
Ouais. L'estime de soi aussi, c'est sûr que au niveau des médias sociaux, hein, il faut aussi éduquer son adolescent, être prudent là-dedans parce que les médias sociaux, comme je le disais, peuvent être positifs, mais aussi négatifs. Alors, si on se compare constamment à des amis qui sont parfaites ou parfaits ou qu'on veut être comme plus... une telle ou un tel, ouais. Ça peut être dangereux aussi pour l'estime de soi. Donc, j'avais fait, je crois, une chronique l'année dernière à ce sujet-là, au niveau des médias sociaux et des adolescents. Et puis, il y a des études qui prouvent quand même que une utilisation malsaine ou trop fréquente ou, tu sais, comme obsessive, mm-hmm. si on veut, là, ouais. des médias sociaux, particulièrement pour les adolescents qui sont en train de se forger une estime et une identité, peuvent être néfastes. Alors ça, je pense que j'apprends pas nécessairement une grande nouvelle aux parents ou aux ados, mais il faut que les ados en soient conscients, eux autres aussi, que ces médias sociaux-là, des fois l'utilisation massive peut provoquer un sentiment d'infériorité ou même de dépression. Donc c'est important de rester alerte. Puis c'est pas juste les parents qui doivent rester alerte, les ados,
les amis des ados eux-mêmes, tout à fait. L'entourage, en fait, tous les jeunes, l'entourage. Mais comme tu disais aussi, ça arrive souvent chez les ados qui veulent imiter les autres. Mm-hmm. Tu sais, mm-hmm. c'est comme un peu ils veulent comme se trouver peut-être leur personnalité, puis là ils essaient de voir est-ce que c'est ça ma personnalité, puis c'est ça qui est dangereux, ça peut devenir oui. difficile. En terminant, peut-être, est-ce que tu as des références, est-ce que on cherche de façon générale là, sur
bien
le système
écoutez,
de soi?
Écoutez, si on a envie de parler hein, quand on est jeune, il y a toujours deux organismes, on les connaît, mais on le répétera jamais assez, ouais. Donc il y a toujours effectivement la ligne d'aide de Jeunesse J'écoute, ouais. Hein, il y a beaucoup de téléphones, j'ai une amie là, qui était intervenante à cet endroit-là, téléphonique, qui me disait qu'il y avait énormément de téléphones qui concernait l'estime de soi, ouais. Et tel jeune. Donc ça, c'est vraiment deux ressources pour les jeunes. Puis pour les parents, bien, c'est toujours d'effectivement faire ses propres recherches aussi.
Merci beaucoup, Eve, d'avoir été des nôtres.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine chronique.
À bientôt.
Merci.
Bye. Bye.
Est-ce que tu vois cette lumière au dehors? Elle brille pour toutes les âmes naufragées. Bien avant que ne disparaisse l'aurore, nous serons sereins cette nuit-là.
mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
De retour au micro avec le bloc Espresso allongé, Pierre Laporte, le sujet entamé plus tôt. Donc, si on se passait des antidépresseurs.
Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Mme Catherine Castro.
Oui. Oui, j'ai juste posé une question. Est-ce que des fois, quand on critique les médicaments, il y a beaucoup de thérapies alternatives qui voudraient beaucoup obtenir les sous des gens qui... Ouais. C'est une guerre entre deux types.
Du lobbying des deux côtés.
C'est de la grosse business. Ouais. Oui. Alors, cette Mme Catherine Castro est journaliste et romancière américaine. D'après un article paru sur le site Internet marieclaire.fr, un site français de France. alors, je poursuis ma lecture. J'en saute un bout. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Mais Mme Castro nous dit « Une dépression est une maladie qui se soigne. Être déprimé, triste, anxieux, mélancolique ou down, comme on dit, c'est autre chose. Être mal, ce n'est pas forcément être malade. Certes, c'est au médecin de poser le diagnostic, mais à nous aussi d'apprendre à nous écouter et à chercher une oreille bienveillante. Fabienne, qui a 48 ans, nous dit « Tous les matins, je me demande pourquoi je me lève. Mère de famille, elle fume comme un pompier et déjeune seule chaque midi. Elle nous dit « J'ai un boulot, un mari et des enfants super, mais je m'ennuie, même avec mes amis. Il me conseille d'aller voir une psy qui me donnerait des antidépresseurs, mais je ne veux pas de médicaments. » La peur des antidépresseurs est bien réelle, curieusement aussi répandue que leur surconsommation. Le psychiatre américain Peter Kramer, qui avait écrit le livre « Prozac, le bonheur sur... »
Oui, c'est une grande sanité sur la question.
Oui, ouais. Il avait écrit le livre « Prozac, le bonheur sur ordonnance ». Lui, il est très critique face aux antidépresseurs. Oui.
Sauf que c'est pas un apologiste. J'ai déjà lu des articles. C'est comme quelqu'un qui est assez dans le milieu. Il n'est pas pour ni contre.
Il est réaliste, mais il est critique.
Il souligne aussi que ça prend de la thérapie avec
ça. Ouais. Oui.
Mais ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on a... C'est bien
j'ai dit qu'il est à con, mais tu as raison de me corriger là-dessus. Oui, il a un œil critique.
C'est ça, oui.
Alors, lui, il nous dit, n'est-il pas dérangeant de savoir que les médecins peuvent remodeler le comportement social de leurs patients à l'aide de traitements chimiques? Depuis l'arrivée de la fameuse pilule du bonheur en 1986, puis du Deroxat en 1992, la tendance est à la prescription massive. Ces molécules qui augmentent la production de sérotonine dans le cerveau sont souvent prescrites à très petite dose afin d'atténuer l'anxiété et les baisses de régime. Si bien que les Américains les ont classés dans la catégorie de la psychopharmacologie cosmétique, des traitements de confort qui permettent aux bien portants d'être, en toutes circonstances, adaptés à leur environnement.
Oui, il faut aussi dire, par exemple, un problème pour la consommation, c'est qu'on vit dans des sociétés qui n'ont pas de grands projets de... C'est collectif, c'est difficile.
Les projets collectifs. Le côté compétitif.
Je dirais, tu sais, un projet, qui nous unit tous. C'est assez difficile. T'sais, une grande partie de la société, on a de la difficulté. C'est pas pour rien que des pays, quand ils sont en guerre, les gens, ils tiennent les coudes ensemble. Il y a moins. T'sais.
Pour ça, il n'y a pas. Ouais, c'est pas aussi uni.
Un grand projet.
Je poursuis ma lecture. Une équipe de recherche de l'Université de Californie à Los Angeles a montré que si dans une colonie de singes dont on retirait le mâle dominant, on donnait du Prozac à un mâle choisi au hasard, celui-ci devenait le dominant. Imaginez qu'une personne timide, obsessionnelle, émotive ou encore caractérielle pourrait, avec ce type de molécule, être « formatée » entre guillemets pour avoir l'attitude sociale correspondant à une norme peut être effrayant. Ne pas péter les plombs en réunion, ne pas élever la voix lors d'un désaccord professionnel ou amoureux, ne pas pleurer parce qu'on a raté son train, ne pas quitter un dîner trop ennuyeux. Dans un article paru dans Le Monde diplomatique, la sociologue Eva Illouz dénonce la fabrique de l'âme standard, entre guillemets. Pouvoir contrôler ses émotions est maintenant assimilé à un signe de maturité, souligne-t-elle. La personne, dans son intériorité, est devenue la cible d'une industrie qui a l'individu comme principale marchandise. Pour que l'humain soit toujours plus rentable, on a standardisé l'âme.
Oui, mais ça permet aussi des gens de fonctionner, par exemple.
C'est ça qui est le...
Il y a des gens, des fois, que c'est trop difficile pour dire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas corriger, puis ça les permet.
On en a à la fois besoin, mais pas en trop.
C'est compliqué. Il n'y a pas de réponse simple. Ça, là, on est dans le gris.
Alors, je poursuis ma lecture. D'accord, mais pourquoi souffrir? Le philosophe Michel Lacroix, l'idée selon laquelle la condition humaine est tragique, que la vie n'est qu'une vallée de larmes, a fait long feu. Il nous dit « L'un des grands triomphes du 20e siècle est d'avoir réussi à faire reculer la douleur. » Il nous dit « Quel progrès! » Mais n'y a-t-il pas aussi dans toute douleur des alertes qu'il peut être bon d'écouter? Ne vaut-il pas mieux regarder nos émotions en face plutôt que de les faire taire à coups de médicaments? La psychiatre Céline Tran nous dit « Les émotions sont des processus d'adaptation indispensables à la survie. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Nos humeurs sont fluctuantes parce que nous nous adaptons en permanence. » Cette médecin fait de la thérapie cognitivo-comportementale et de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience et prescrit des médicaments seulement si nécessaire. L'objectif, prévenir les rechutes dépressives. Alors, je m'arrête là-dessus. L'article s'appelle « si on se passait et si on se passait des antidépresseurs ».
Et tous nos références sont sur notre site web. Oui. Les gens qui veulent aller vraiment cliquer dessus, c'est dans « mentionner l'émission ». Donc, sur antenne.qc.ca, peuvent retrouver ces références-là. Merci beaucoup, Pierre.
Salut, Yvan.
Merci, Ghislain. Merci. On poursuit à Folie douce.
souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux, branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
En conclusion de cette émission de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons qu'on écoutait dans ce rendez-vous de Folie douce. Je l'ai malo ici présent.
Oui, bien sûr.
On écoutait en début d'émission Les Amants de l'Aube.
De Mathieu Lippé.
On écoutait La Grande Allée.
De Dimon.
Dans la deuxième demi, Hold On.
Oui, de Kid Wise.
Oui, et à l'instant, Bad Luck.
De Vincent Vallière.
Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical merci. À toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde.
Bienvenue.
Merci également pour tes blocs espresso et espresso allongé où on a parlé des antidépresseurs. En fait, tu nous disais si on se passait des antidépresseurs, mm-hmm. plusieurs références intéressantes. Merci beaucoup. Notre invitée en début d'émission, Sabrina Dufour, nous a parlé du projet Reflex. On avait notre collaboratrice cette semaine aussi, Eve Cardinal, qui nous a parlé pour sa part des ados et de l'estime de soi. Alors, tout ça dans le menu de cette semaine de Folie douce. Bonne semaine à tous. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. À la prochaine. Au revoir. Pop, 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 pop